compétition. Je vais accueillir notre ami Brice qui est là. Du coup, bien sûr, Brice est venu avec sa chère femme Mélanie. Peut-être qu'il va les présenter tous les deux dans une seconde. Mais moi, j'avais à cœur de le présenter premièrement. Donc, Brice, c'est un ami. Mine de rien, ça fait à peu près, je ne sais pas combien de temps exactement, mais ça fait pas mal d'années qu'on se connaît maintenant. 6-7 ans à peu près, je dirais, au moins. Et Brice, c'est beau parce que c'est un homme qui est généreux. Il ne m'a pas payé pour dire ces choses-là aujourd'hui. Mais c'est vraiment du fond du cœur que je voulais vous le présenter en quelques mots. C'est vraiment un homme qui est généreux. Ne dis pas non, Brice. Et parce que c'est quelqu'un qui, avec son épouse, ils ouvrent leur maison. Ils vous font sentir chez eux comme des rois et des reines. C'est des gens qui ne se satisfont pas du minimum quant à Dieu, quant à la parole, quant à vivre la vie avec Dieu. C'est vraiment des gens qui se jettent à cœur perdu dans tout ce qu'ils vivent. Et nous, ça a été, et c'est toujours d'ailleurs, un honneur de les connaître, de les compter parmi nos amis, de pouvoir même s'enrichir les uns les autres parce qu'on vit avec le Père. Et quand on a pensé à ce culte de Pâques, qui était un culte un peu particulier, on a pensé à eux et on a pensé à Brice par son parcours de vie qu'on a eu le privilège de connaître, et parce qu'il vit aujourd'hui même et ce qu'ils vivent aujourd'hui même, on s'est dit que c'était quelqu'un vraiment de super pour nous partager par rapport au cœur de ce Jésus qui est mort et ressuscité pour nous. Donc vraiment les amis, je compte sur vous pour l'honorer et vraiment lui faire une belle ovation alors qu'il vient partager pour nous.
Wow, wow, wow. Bon, tant pis pour mon humilité. C'est moi, bien sûr, qui suis très, très, très honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour différentes raisons. D'abord, je suis content depuis plusieurs jours. Je dis à Mela, c'est quand même incroyable. On va faire de nouveau un moment de louange avec nos amis Trefcon, nos amis Sarkis, qu'on connaît un peu moins, mais qu'on connaît quand même, et on connaît votre sensibilité à la louange, et on languissait de vivre ce temps de louange, et puis on était là avec ma femme, on était dans les cieux, et c'est bon d'attaquer, de parler de Jésus quand on sait qu'il est déjà là. Alors voilà, je suis venu avec ma femme qui est là, qui est à côté de moi, cette femme qui pétille. On a également une petite fille, Rose, qui a 10 ans et demi, qui a préféré rester avec ses cousins manger des œufs plutôt que de venir écouter son papa parler de Jésus. Mais vous inquiétez pas, quand on va rentrer, elle sera punie, comme convenu. Je plaisante, bien sûr. Je suis là pour vous parler de Jésus, et en même temps, vous pensez peut-être que je suis pasteur, c'est pas le cas. Je suis pas évangéliste, je suis pas théologien, je suis désolé, mais j'aime Jésus plus que tout. J'aime Jésus parce que j'ai eu la chance de le rencontrer il y a 14 ans. Pour vous dire en gros mon témoignage, hein, c'est pas le centre du message, mais voilà, j'ai eu un contexte de famille très compliqué parce que ma mère s'est mis un coup de fusil, j'étais tout petit. J'avais une vraie sœur, j'ai été élevé chez ma tante et chez mon oncle qui avait 6 enfants, donc on a été élevé à 8, dans une famille qui n'était pas du tout friquée, dans une famille où moi je suis arrivé le petit dernier et j'ai toujours fait un peu ce que je voulais. Un papa qui était absent, un papa qui m'a jamais montré de l'affection, encore moins de l'amour, qui s'occupait pas du tout de moi, qui venait me chercher que de temps en temps, mais qui était violent avec moi, violent dans ses propos, violent dans ses actes. Et à 17 ans, un week-end où il était venu me chercher, je l'ai retrouvé dans une mare de sang, il venait de prendre un coup de fusil. Et à partir de là, ma vie a complètement changé. J'étais devenu ce qu'on appelle un petit peu un no futur. Je me suis dit, je vais profiter de la vie, si c'est ça la vie, parce que pour moi, le bilan de la vie, c'était une maman qui ne me voulait pas, vu ce qu'elle avait préféré partir, et un papa qui ne m'avait jamais montré d'affection. Je me suis dit, si c'est ça la vie, moi, je vais tout arrêter mes études, je vais bosser, je vais dépenser mon argent, et quand j'en aurai marre, je partirai un peu comme mes parents sont partis. Et là, j'ai commencé à glisser vers une vie de débauche. Et alors je bossais, je gagnais de l'argent et je dépensais tout le week-end, la plupart de tout. Et j'ai commencé à glisser dans la débauche, j'étais dans le milieu du foot, donc j'ai commencé à boire des canons, j'ai commencé à être un gros fêtard, j'ai commencé à vivre dans l'adultère. Et c'était l'équilibre de ma vie. Et quand j'en avais marre, j'allais faire des voyages en sac à dos un peu partout dans le monde, beaucoup dans les pays asiatiques. Je m'étais fait un petit cocktail de religion. Moi, il suffisait d'être bon avec les gens pour penser qu'on était quelqu'un de bien. J'étais plutôt un meneur. La plupart des jeunes de mon village avaient la clé de chez moi. Ils venaient fumer, ils venaient avec leurs copines chez moi. C'était un gros bazar. Et Dieu m'a permis un jour de mettre sur ma route une personne qui m'a parlé de, de son Jésus, de qui elle était amoureuse de Jésus. Et petit à petit, elle m'a fait écouter des louanges. Et petit à petit, elle est venue me voir avec un regard. Et elle connaissait ma vie par cœur. Hein. Elle connaissait toutes les femmes mariées avec qui je couchais. Elle connaissait mes débauches dans la nuit. Elle connaissait vraiment tout. Et puis voilà, elle m'a regardé avec des yeux d'amour. Et quelques temps après, voilà, elle m'a conseillé d'aller à une convention où son pasteur du Canada allait. Et moi, j'ai prévu un voyage à sac à dos là-bas en Israël. Et voilà, c'est un jour où je tombe sur le pasteur qui vous sort toute votre vie en face de vous. Je ne connaissais pas trop le milieu chrétien. Je prenais les chrétiens pour des barjots. Moi, je me foutais de la gueule des chrétiens quand j'étais inconverti. Et voilà, j'ai eu un tête-à-tête avec ce Jésus qui m'a tout montré ce que j'avais fait dans ma vie. J'ai fait des choses très, très graves dans ma vie. Et Jésus m'a dit, mais non, c'est comme tu veux. Soit tu vas dans ce mur, soit tu me suis. Et à ce moment-là, j'ai décidé de le suivre. Et voilà, je suis venu et voilà, j'ai eu quelques révélations dans ma vie de converti depuis 14 ans. Hein. J'entendais tous ces chrétiens parler d'un Dieu papa, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas, moi, l'image du Père était complètement faussée. J'ai dû pardonner à mon Père pour avoir cette révélation que Dieu était vraiment un Père. Et puis j'ai eu un orateur qui est venu, j'étais à l'église Sarment à Valence, qui est venu prêcher sur la grâce. Et là, j'ai réalisé de ce que c'était la grâce, de ce qui était intellectuel est descendu dans mon cœur. Et à partir de là, j'ai décidé d'être un porteur de grâce. Et il y a quelques années, j'achetais le Dauphiné. En première page, il y avait un acte qui s'était passé sur Montélimar et j'ai eu une montée d'émotion. Et puis Mela, elle vient me voir et elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, ben voilà, il venait de se passer, un pote qui était avec moi en terminale venait de tirer sur un jeune que j'avais entraîné au foot, qui s'était mis après au rugby. Et j'ai dit à Mela, je dis, voilà, ça, il y a Boris qui vient de tirer sur Aurélien, il y en a un qui va prendre 15 ans, il y a l'autre qui entre la vie et la mort, et moi je fais quoi? Moi j'ai été touché par Dieu, je fais quoi? À partir de ce temps-là, j'ai décidé d'être aumônier de prison. J'ai fait les démarches, tout ça, et j'ai la chance d'être dans ma cinquième année d'aumônerie de prison. Et tous les vendredis, je vais voir des détenus. Et pour leur dire qu'il y a des plans B, des plans C, des plans D, j'aurais dû faire de la prison, j'aurais dû faire des années. Mais je sais que voilà, Dieu, avec sa grâce, est tombé sur moi. Et voilà, je veux être ce répandeur de grâce autour de moi. Alors, je pourrais vous parler de plein de gens. Je pourrais parler pendant 2 heures, mais je sais qu'il y a un timing de ce que je vis à la prison. Sachez que Jésus est à la prison, il y a une église à la prison de Valence et il se passe des choses exceptionnelles. Je pourrais vous parler de plein de profils différents. Je pourrais vous parler d'un gars que j'ai rencontré une fois, je le suis depuis 3 ans. Il venait de faire quelque chose de dramatique. Il avait une vie tout à fait normale. Et souvent à la prison, on a des contextes de vie difficiles. Lui avait une vie tout à fait normale, il avait ses parents, tout ça. Mais voilà, son couple n'allait pas bien, il a commencé à glisser un petit peu. Et sous fond d'adultère, une mauvaise dispute, il voit rouge, quelque chose qu'il n'avait pas prévu, tout ça. Et il fait l'irréparable auprès de sa femme. Et ça s'enchaîne et ça s'enchaîne. Il cache tout à tout le monde. Et au bout de 4 mois, ben, les taux se resserrent et il se fait attraper. Et puis il est là à la prison pour des années. Son procès est bientôt. Et lui, je me rappelle quand j'allais le voir, il ne pouvait pas parler. Il ne pouvait pas parler parce qu'il ne faisait que pleurer. Il était dans la culpabilité. Culpabilité de l'acte qu'il a fait, culpabilité par rapport à ses parents. Culpabilité par rapport à ses beaux-parents parce qu'il avait tout caché, culpabilité même par rapport au curé de son village parce qu'il avait préparé l'enterrement de sa compagne. Et il était là et lui, je me rappelle, impossible. Il ne pouvait pas voir Dieu, il pouvait pas, c'était je suis mauvais, je mérite de morfler, je suis mauvais. Je pouvais vous parler aussi d'un gars que j'aime beaucoup qui s'appelle Chris. Lui, quand je l'ai rencontré, c'est une copine aumônier qui m'a dit, Brice, tu devrais aller rencontrer lui, ça va bien se passer. Et quand je suis allé le voir, je vois un gars très dur, cheveux rasés, tatoués, je vois des maillots de l'Olympique Lyonnais de partout. Et moi, je commence à changer, je dis, allez l'OM. Il me dit, ça me fait pas rire. Poum. Je suis marseillais, quoi, je suis pour l'Olympique de Marseille. Et voilà, et puis on commence à discuter, je dis, salut, je suis Brice, je suis aumônier, on m'a parlé de toi. Voilà. Puis je commence à m'asseoir, puis commence à me parler de son contexte de vie. Et puis pareil, sa maman qui est partie trop tôt, cause de maladie, il m'a dit, moi j'ai toujours vu mon père fracasser ma mère. Moi, ma mère, j'ai presque vu plus en sang que normalement. Donc quelque part, c'était une délivrance qu'elle parte. Par contre, j'en veux à mon père. Et je me suis engagé dans l'armée. Et je me suis engagé dans l'armée comme ça. Et il a fait les commandos. Et il a fait des formations là. Et ce gars-là, chaque fois que je le voyais, il parlait que de casser des mâchoires dans la cour ou aux surveillants. C'était que de la violence. Ce gars-là, il faisait partie des hooligans de l'Olympique Lyonnais. Il organisait les fights avant tous les matchs, et ces bagarres entre certaines élites de bagarreurs, et il organisait toutes ces bagarres-là. Il est même allé se former en Angleterre pour apprendre à se battre avant les matchs. Il m'a dit, j'étais un héros en Angleterre parce qu'une fois, il y a une grosse bagarre, je suis parti le premier. Et ce gars-là parlait que de bagarres. Donc là, pareil, on a commencé à parler. Je me suis beaucoup rapproché de lui par rapport au manque d'amour d'un papa. Et on a discuté, et on a discuté. Et puis, je peux vous parler aussi de Jérôme. Alors, Jérôme, lui, c'est vraiment un cas sous fond d'alcool. Pareil, contexte familial compliqué, disputé avec son père. Son frère a été assassiné dans un règlement de compte. Il se marie avec la femme de son frère. Il me disait que dans sa communauté, ça se faisait beaucoup comme ça. Il devait gérer cet enfant, mais il avait une petite à lui. Et lui, il souffrait. Il souffrait énormément parce que depuis qu'il était là à la prison, donc c'était par vengeance à son frère, sous fond d'alcool, tout ça, mais il n'avait aucune visite de sa femme, aucune visite de sa petite. Et c'était très, 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 très dur pour lui. Et lui, voilà, j'étais à fond dans l'encouragement et tout. Et puis un vendredi, je passe et je vois le regard très noir. Je lui dis, ça va Jérôme? Non, ça va pas Brice. Et d'habitude, il me dit, ah, vas-y, viens, assis-toi sur le lit. Vous savez, c'est des pièces de 8 mètres carrés et demi, hein, c'est petit. Il me dit, toutes tes conneries là, c'est du n'importe quoi. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, tu sais, tu me dis que souvent Dieu, il peut pas nous mener plus loin que ce qu'on peut supporter. Je lui dis, oui, oui, je le crois. Il me dit, ça, c'est de la connerie. Je lui dis, pourquoi? Ma femme, elle vient d'envoyer un courrier, elle demande le divorce. Voilà, ça veut dire que je vais jamais voir ma fille, je vais jamais voir ma femme. J'ai zéro personne. Même mon meilleur pote, il y a un mois, il voulait monter sur Valence, il s'est tué en moto. C'est-à-dire que même s'il y a un vice de procédure, je sors là, je suis devant la prison de Valence, j'ai zéro personne à aller voir. Puis là, je commence à m'asseoir, je commence à lui mettre la main sur l'épaule, puis je commence à dire, vas-y, mais raconte-moi. Alors, ok, je savais qu'il avait perdu son papa et tout. Et puis, je ne me rappelle plus des fois de toutes les histoires que j'ai. J'y ai, et ta maman? Il me dit, tu veux qu'on en parle de ma maman? Mais ma maman, un jour, les gendarmes ils m'ont appelé parce qu'ils venaient de découvrir le corps dans son appartement. Les chiens avaient déjà commencé à manger le corps. J'ai pas pu dire au revoir à ma maman. En étant froid, j'ai jamais pu lui dire au revoir. Il me dit, c'est pas le pire. Il me dit, quelques temps après, il y a le propriétaire qui m'appelle pour nettoyer l'appartement. Il m'a dit, Brice, j'ai dû tout nettoyer l'appartement. Je suis tombé sur des morceaux de peau avec des cheveux de ma maman. J'ai tout mis ça dans les sacs poubelles. Il me dit, Brice, j'ai mis ma maman à la poubelle. Je ne sais pas comment vous, chrétiens, vous aurez réagi. Et lui, il me disait là, j'étais incapable de parler, j'ai les yeux qui coulaient, j'étais incapable de parler. Il me dit, Brice, je ne peux plus, j'ai même plus assez de larmes, Et je crois du fond du cœur qu'on a un Dieu qui s'invite dans nos souffrances. Il y a une histoire dans la Bible comme ça, où... C'est David qui est dans le Negev, c'est dans 1 Samuel, vous pouvez voir ça, quand à un moment, il part avec tous les guerriers, et pendant qu'ils sont à la guerre, il y a les Amalécites qui viennent et qui pillent le village et ils kidnappent les femmes et les enfants. Et la Bible nous dit que quand ils reviennent, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'enfants, et les hommes se mettent à genoux et sont en pleurs. Et la Bible nous dit que David, il a tellement pleuré qu'il n'a plus de larmes. Et là, on ne parle pas de chochotte du samedi soir, de petits bagarreurs, hein, on parle d'hommes, de guerriers, des gens qui vont à la guerre. Mais je crois, et la Bible le proclame, s'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. S'il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour se restaurer. Et par la grâce de Dieu, David et tous les guerriers vont retrouver leurs femmes et les enfants. Et je crois qu'il y a pareil pour chacune de nos souffrances. Et je vais vous parler ce matin d'une histoire qui me touche depuis 6 mois que j'ai sur le cœur. C'est l'histoire de... cette veuve de Naïm qui enterre son fils. On trouve cette histoire dans Luc 7. C'est une histoire d'une femme qui est dans ce cortège de souffrance et qui va rencontrer ce Jésus, qui va rencontrer ce Jésus qui est dans un cortège de vie. Je vous propose qu'on le dise tous ensemble. C'est Luc 7, verset 11. On va lire les deux premiers versets. Jésus se rendit ensuite dans une localité appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Au moment où il approchait de la porte de cette localité, on menait un mort au cimetière. C'était le fils unique d'une veuve. Quand deux atmosphères se rencontrent. Juste pour que vous puissiez comprendre ce contexte. Naïn, ça veut dire beauté, c'est au pied de l'Hermon, c'est un cadre idyllique. Et au milieu de ce tableau se joue quelque chose vraiment d'assez incroyable. On a d'un côté une veuve. On nous dit qu'elle est veuve. Elle a déjà perdu tout le côté financier. Elle a perdu déjà tout ce côté affectif avec son mari. Et là, on nous dit qu'elle est là et qu'elle enterre son fils unique. C'est-à-dire qu'elle avait déjà tout reporté sur son fils unique, justement, ce côté financier, ce côté affectif, elle a vraiment plus rien. Elle est en train d'enterrer son dernier espoir. On nous dit qu'il y avait beaucoup de gens, on nous dit qu'il y a toute une foule autour d'elle. Donc on imagine ce cortège de souffrance, ce cortège de mort, ce cortège où il y avait vraiment une tristesse et tout. Et d'un côté, de l'autre côté, il y a Jésus qui arrive. Il y a Jésus qui arrive avec un autre cortège. Il faut savoir que 24 heures auparavant, si vous lisez avant l'histoire, Jésus était à Capharnaüm. À Capharnaüm, il était en train de guérir des lépreux. Il était en train de libérer les captifs. Il avait guéri le fils du centurion romain à distance. Il ne lui a pas posé les mains à distance. On imagine qu'il est avec ses disciples, avec cette foule, que c'est vraiment, il y a un esprit de foi, il y a un esprit de joie. C'est un cortège où il y a de l'espérance. Ils sont comme des dingues autour de Jésus. Et là, on nous dit que ce cortège de vie, alors Capharnaüm, c'est à 40 km de Naïn, ils sont en train de descendre pour rejoindre ce cortège. Moi, je trouve que c'est incroyable, et ça, je crois que ça représente notre Seigneur Jésus, qu'il est prévu cette rencontre. Parce que je crois que Jésus est omniscient, il a conscience de tout. Et je crois qu'en même temps qu'il était en train de guérir ce lépreux, qu'il était en train de guérir le fils de l'officier romain, en même temps qu'il était là dans un esprit de joie, il voyait en même temps cette femme qui souffrait, et il organisait cette rencontre avec cette femme. Et je vais vous dire, c'est pareil pour nous. Tout à l'heure, on était là, j'ai vraiment vécu un temps, j'étais au ciel pendant la louange, et on était là, en train de louer Dieu. Et je crois que Jésus règne au milieu de ces louanges. Et je crois qu'on était tous là loués, que Jésus, il aime quand ça pétille, il aime quand on loue, il aime quand on l'adore. Mais en même temps, il voit les cœurs qui saignent. Et je crois qu'il y en a cet après-midi. Je crois qu'il y en a cet après-midi, vous savez par cœur quand il faut se lever, vous savez par cœur comment on loue, vous savez par cœur comment on adore, quand il faut se lever, quand il faut s'asseoir. Mais vous êtes là des fois et vous êtes avec vos craintes, vous êtes avec vos peurs, vous êtes avec vos cœurs qui souffrent. Et j'ai envie de vous dire, Jésus le voit. Jésus le voit comme quand il était à Capharnaüm, qui voyait cette femme en train de souffrir. Et je vais vous dire, Jésus, j'avais une grand-mère Adulfi, quand j'allais chez elle, il y avait écrit « Jésus est comme un hôte silencieux dans cette maison ». Et j'ai envie de dire, Jésus, il était comme un hôte silencieux à ce moment-là avec cette veuve de Naïm, comme il est avec vous. Quelque temps avant de donner ma vie au Seigneur, j'étais un samedi soir avec un de mes meilleurs potes d'avant conversion. Voilà, on arrive en discothèque, complètement défoncé comme la plupart des samedis soirs. On avait fait déjà le tour des boîtes, autour des bars autour de Montélimar. Et on arrive dans une discothèque et je vois mon pote que je connais très bien, je le vois virer, je vois que son regard n'est pas le même et je le vois foncer dans le bar et il met un gros coup de tête à un gars que je ne connaissais pas. J'ai juste entendu dire « Gaël, qu'est-ce que tu fais ?» Et là, il y a une bagarre générale, je me suis dit « On est mort ». J'ai vraiment eu peur dans cette bagarre et puis il y a les videurs qui arrivent et puis ça part dans tous les sens et puis on nous fout dehors. On a le temps de courir dans une voiture. Tout le monde, heureusement, n'était pas sorti en même temps que nous. Le temps qu'il fasse le tour, on a eu le temps de démarrer. Et puis mon pote, il conduit, puis au bout d'un moment, il s'arrête, et puis il était là, et puis il se met à hurler. Et je lui dis, Gaël, mais qu'est-ce que tu fais, Gaël? Et même moi, j'avais vraiment pas compris, j'avais vraiment eu peur. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Et puis là, il commence à me parler, il commence à me dire, ouais, ce gars-là, je le connaissais, il a fait souffrir ma mère, et puis j'en ai marre, et puis mon père, il s'est jamais occupé de moi, et puis ses parents étaient divorcés, il a jamais eu de relation avec son père, pourtant qui habite dans le coin, et sa mère, elle est régulièrement en discothèque, et puis en fait, c'est un gars qui avait été avec sa mère, et qui avait fait souffrir sa mère, et puis il a vu rouge en rentrant, et puis on était là comme deux écorchés vifs en train de parler de notre vie, et puis moi aussi, je me mets à parler de mon père qui m'a jamais aimé, et puis on est là, et puis vous savez ce que je crois, c'est que dans cette voiture où aucun chrétien ne serait venu, et je peux comprendre, il n'y a aucune culpabilité, mais là où aucun chrétien ne serait venu, Jésus était là. Jésus était là comme un hôte silencieux, et il était là en train de préparer justement comment on pouvait sortir de ce cortège de souffrance pour rentrer dans un cortège de vie. Et quelques mois après, il organisait ma rencontre avec lui. Et quelques mois après, mon pote se mettait avec une femme, et il n'est pas avec le Seigneur aujourd'hui, mais moi aujourd'hui je suis avec le Seigneur avec une vie extraordinaire. Et lui, il a deux jolies filles, je l'ai mis parrain de Rose. Il est chef d'entreprise d'une société qui se passe super bien. Et voilà, un Jésus au tient-tieu qui prépare des rencontres derrière, qui prépare des conversations, qui prépare tout ça pour entrer dans un cortège de vie. C'est ce Jésus-là que j'aime. Regardez la suite de l'histoire. Quand le Seigneur la vit, il fut rempli de pitié, rempli de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas, Jésus dit, jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Ça vous paraît pas un peu bizarre quand même ça? Jésus, à l'époque, bon, je vous ai dit, je suis pas théologien, mais je suppose quand même qu'il n'y en a pas beaucoup qui le connaissaient, Jésus, à l'époque. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas toute cette réputation aujourd'hui. Imaginez-vous, comme je ne sais pas, moi j'étais élevé dans un village, je voyais un cortège funéraire passer le village, je m'écartais. Jésus, lui, se met là, il sort de son cortège et il va voir la femme. Et il lui dit, ne pleure pas. Mais vous imaginez un peu? Les gens te disent, mais qui c'est ce gars-là? Mais qui c'est? Qu'est-ce qu'il fait pour se permettre de dire à une femme qui enterre son dernier espoir de ne pas pleurer? Et il lui fait ça. Et après, il va voir le gars et il lui dit, lève-toi. Et ça, c'est une vérité. C'est que Jésus ne nous contournera jamais. Peut-être que des gens, peut-être que le jour où vous êtes trop en souffrance, peut-être que les gens vont vous contourner parce que vous allez peut-être les saouler, peut-être vous allez trop dans votre truc. Mais Jésus ne vous contournera jamais. Et aujourd'hui, il dit à la personne, ne pleure plus parce que je vais donner un espoir à ton désespoir. Et je crois qu'aujourd'hui, Jésus est là comme un autre silencieux. Il vient vous rencontrer, chacun d'entre vous. Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre cercueil. Peut-être ça peut être une maladie où vous dites, j'ai tellement prié. Allez, on enterre. Allez, c'est du désespoir. Ça peut être un problème de couple. Ça peut être un problème d'argent. Ça peut être un problème de rêve brisé. Et Jésus vient vous rencontrer aujourd'hui et vous dire, stop. Je vais redonner vie à ce que tu as fait mourir ou ce que tu es en train de faire mourir. C'est ce Jésus-là que j'aime. C'est ce Jésus-là que j'aime. Et regardez derrière, encore plus beau. Le mort se dressa et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Il louait Dieu en disant, « Un grand prophète est apparu parmi nous. » Et aussi Dieu est venu secourir son peuple. Regardez l'histoire. Au début, on a un cortège de mort, un cortège de souffrance, un cortège de deuil. De l'autre côté, on a un cortège de vie, un cortège d'espérance, un cortège de foi. Jésus, il sort de son cortège, il va dans le cortège. À la fin, on n'a plus qu'un cortège. C'est quoi la vérité de ça? Le Dieu de la vie est plus puissant que le Dieu de la mort. Et qu'est-ce que j'aime dire ça le jour de Pâques? Le Dieu de la vie est plus puissant que le Dieu de la mort. Amen. Ah, j'espérais qu'on dise amen. J'espérais qu'on dise amen. Vous savez, Jésus, ce n'est pas le style de gars à venir là, à travers la louange, se faire flatter, se faire honorer et dire « Allez, maintenant, je m'en vais. » Je crois vraiment qu'il est resté là. Je crois vraiment qu'il est resté là. Ça fait des mois que j'ai cette histoire qui me parle sur mon cœur. Ça fait une semaine que je pleure pour cette église. Et je crois que quand je pleure, c'est que le Saint-Esprit veut agir. Vraiment, je reviens sur cette image du cercueil. Je ne sais pas ce qu'il y a dans votre cercueil. Mais commencez à réfléchir depuis que vous êtes le Seigneur, et même si vous n'êtes pas avec le Seigneur, c'est que vous avez un rendez-vous là. Il a un rendez-vous. Pendant qu'il était dans les louanges, il regardait les cœurs qui saignent, il regardait les cœurs qui étaient opposés à lui. Peut-être c'est des choses qui ne l'honorent pas et vous n'y arrivez pas, et il est là comme un autre silencieux, il vous prend dans ses bras. Le Dieu de la vie est plus puissant que le Dieu de la mort. Je vous reparle des détenus que je vous ai parlé tout à l'heure. Ce gars-là qui a fait un acte dramatique sur sa femme, c'est un sujet de prière aussi. Priez pour lui en ce moment. Il y a son procès qui va arriver fin mai. Il y aura les médias. Il est déjà passé sur enquête criminelle cette semaine avec vraiment. Il a un procès à charge et il le sait. Et j'ai pas pu le voir ce vendredi. Je voulais l'encourager parce qu'il s'est fait vraiment lyncher à la télé cette semaine. Et je l'ai vu le vendredi d'avant et on a pris un bon temps de prière ensemble. Je l'appelle Barnabas aujourd'hui, ce gars-là. Je l'appelle Barnabas parce qu'il encourage tous les autres détenus. Il y a des détenus qui se sont tournés vers le Seigneur grâce à lui. Parce qu'à un moment, Jésus est sorti de son cortège de vie, est venu le voir et a tout mis en place pour qu'il change de cortège. Et ouais, aujourd'hui, il m'a dit la dernière fois que j'ai eu, il me dit, tu sais, la chance que j'ai, c'est que je vais me faire flinguer, c'est sûr. Je vais prendre beaucoup d'années, c'est sûr. Mais je sais qu'il n'y a rien qui changera du regard de Dieu sur moi. Et je sais que c'est pareil pour vous, les aumôniers. Pour moi, c'est la plus belle des victoires. C'est la plus belle victoire. Il me dit aujourd'hui, peu importe que je prenne 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais je vais être utilisé dans n'importe quelle prison où je serai. C'est les dernières paroles qu'il m'a dit. Voilà. Priez pour lui, vraiment, on va entendre parler de lui dans les semaines à venir. Le Jérôme, qui a mis soi-disant sa mère à la poubelle, aujourd'hui il écrit des psaumes dans la prison. C'est, je vous le ferai passer si vous voulez tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a arrêté l'école en cinquième, c'est lui qui a écrit ça. Et voilà, il se laisse inspirer par des textes. Il aime écrire les psaumes, il aime écrire. Sa femme finalement n'a pas divorcé, elle est venue le voir quelques temps après. Il a pu voir deux ou trois fois sa fille. Un Jésus qui s'invite dans les souffrances et qui amène des solutions. Il y a un temps pour se lamenter, un temps pour se restaurer. Écris mon bagarreur. Il est sorti début janvier. Il est sorti début janvier et depuis on s'appelle tous les deux jours. Je vous montre ses statuts Facebook depuis qu'il est sorti. Chris Lyon, 8 janvier, nouveau départ, nouvelle vie, nouveau travail, mais surtout il me reste l'amour et le pardon des vrais amis et la joie de pouvoir voir et éduquer mon fils Lisandro. Et avec la grâce de Dieu, son amour et sa toute-puissance, je sais qu'il ne me fera pas quitter le droit chemin. Je vais me maîtriser et calmer mon impulsivité. Plus rien ni personne ne me fera craquer. Merci pour votre soutien à tous. Le 8 janvier, le 12 janvier, il met la chanson Collectif Cieux Ouverts, Yahweh. Quelle belle chanson, que Dieu protège mes amis et leur famille, que Dieu bénisse mes proches. Amen. Le 15 janvier, Hosanna, Paul Baloche, louange à toi Seigneur. Je peux vous en mettre plein. Le 12, merci Brice pour ce partage, tu as raison, tout est dit dans cette chanson. Tu es là pour chacun de nous, notre Seigneur. Béni sois-tu Seigneur et béni mes proches et mes amis. Ce gars-là, il est routier aujourd'hui. On s'appelle tous les deux jours. Moi, je me lève très très tôt pour le boulot. On s'appelle tous les lundis déjà de 5h à 6h du matin. Bon, le premier quart d'heure, on se chambre par rapport aux résultats de foot, selon les résultats de l'OM de Marseille. Et après, on vit notre temps spirituel. On vit notre temps spirituel. Et c'est souvent le lundi, le jeudi. Là, il m'avait encore un texto. Il est à Barcelone avec sa copine ce matin. Brice, je sais, je prie pour toi, pour cet après-midi, tout ça. Le Dieu de la vie est plus fort que le Dieu de la mort. Ce n'est pas la puissance d'un petit aumônier qui va là le vendredi. C'est la puissance d'un Jésus qui est ressuscité, qui est vivant, qui veut s'inviter dans chacun de nos souffrances. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cercueil? Qu'est-ce qu'il y a dans votre cercueil? Maintenant, j'aimerais vous dire une dernière chose avant de... Je pense qu'on priera après. C'est une église où on prie ici, je pense. Je ne suis pas venu vous annoncer un évangile de magie. C'est vrai que j'ai pris des cas marquants. J'aurais pu vous en raconter plein d'autres. Hein. J'ai un détenu de 72 ans qui est arrivé en chaise roulante. Hein. Je prêche il y a quelques temps de ça, et puis un gars vient me voir, il me dit, voilà, moi je suis aussi touché par Dieu, je suis catholique, je suis tout ça, et j'aimerais servir, j'aimerais prier pour des détenus. Je dis, ben, vas-y, qu'est-ce qui t'en empêche? Le mardi d'après, il y a un groupe de parole. J'apprends qu'il va prier pour ce gars en fauteuil roulant, et que ce gars marche. Alors je l'apprends, mais moi, je suis comme tout le monde. Ah, je veux le voir, je veux le voir. Moi, je vais voir Michel dans sa cellule en fauteuil roulant. Je vois Michel, il pleure. Je dis, ah, Michel, on m'a dit des trucs. Oui, Brice, je fais que pleurer. Il se lève, il me dit, regarde. Je dis, mais il faut témoigner, il faut dire à tout le monde. Il dit, non, je vais m'enlever de fenêtre parce qu'ils ne vont jamais me laisser sortir. Ils vont tous me croire que je me suis foutu d'eux ici. Et le gars, il gardait son fauteuil roulant. Et moi, je dis, ah, il faut témoigner, il faut dire, c'est la puissance de Dieu et tout. Et ce gars-là, il gardait, mais il m'a montré les papiers, il m'a montré tout ça, il est vraiment rentré comme ça. Dieu a utilisé un détenu pour prier à un autre. Le Dieu de la vie est plus fort que le Dieu de la mort. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que je ne suis pas venu apporter un évangile de magie en disant, on va prendre un temps de prière, tu as des problèmes d'argent, tiens, tu vas avoir 1000 euros, tu veux une femme, tiens, il y a cette femme-là, tu veux un homme, tu veux ta guérison, tiens, oh, t'es guéri. Non. Il faut savoir que Dieu est sur son trône, et sur son trône, il fait ce qu'il veut, mais qu'il a chaque fois une solution. Des fois, ça va être la solution à laquelle tu as pensé. Mais des fois, ce ne sera pas celle-là, ce sera une autre. Cette femme, il aurait pu la bénir différemment. Peut-être cette femme, elle n'a pas demandé à faire revivre son fils. Peut-être cette femme, elle voulait un mari. Et je vous dis ça parce que des fois, on est tellement focalisé en priant et Seigneur, on est tellement focalisé sur nos réponses à nous qu'on attend à nous. Je crois qu'on passe à côté de la grâce que Dieu veut nous donner. N'oublions jamais, vraiment n'oublions jamais, que Dieu est sur son trône. Et sur son trône, il se plaît à répondre, à faire du cas par cas. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Notre logique n'est pas la sienne. Mais par contre, n'oublions pas, il a une réponse à chacune de nos questions. Il a une réponse à chacune de nos prières. Il n'y a pas une souffrance où il n'a pas une solution. Amen. Dieu, sa parole, est créatrice. Il a créé l'univers avec sa parole. Il dit que la lumière soit et la lumière est apparue. Et je crois que dans vos ténèbres, dans votre cortège, il peut venir mettre de la lumière. Et je veux proclamer ça sur vos vies. Et je veux proclamer ça aujourd'hui dans ce lieu. Amen. Est-ce qu'on peut prendre le temps de prière? Je ne sais pas comment vous avez prévu, ou on fait un appel, ou... Hein? Alors je veux... Oh, est-ce qu'on peut se lever pour glorifier Dieu quand même? Je pense qu'il le mérite, hein? Il le mérite. Ouais, Seigneur, c'est tellement bon de ressentir ta présence, Seigneur. Comme j'ai dit, Seigneur, t'es pas venu là tout à l'heure juste pour le temps de louange et t'es pas reparti juste parce qu'on t'a honoré. Tu es là ce matin comme un être invisible pour agir. Et tu vois tous ces rêves brisés, tu vois tous ces cœurs qui saignent. Tu vois toutes ces personnes qui sont là et peut-être qu'on réalisé qu'elles ont mis tellement de choses dans des cercueils, Seigneur. Et Seigneur, maintenant je veux vraiment libérer ta puissance, libérer ton onction, Seigneur, et que tu puisses prendre toute la place. C'est encore temps de travailler les cœurs, Seigneur. Tu parles à chacun des cœurs, Seigneur, et je veux te remercier. Je veux te remercier parce qu'on a vu à travers ces témoignages, on a vu à travers ce passage de la Bible que tu agis. Tu n'es pas là à te cacher, mais non, c'est toi qui t'approches des gens, Seigneur. Seigneur, merci parce qu'à la fin, il n'y a qu'un cortège. C'est un cortège de joie, un cortège de vie. Et c'est ce que nous voulons vivre maintenant. Seigneur, je veux vraiment proclamer que cette église soit un cortège de vie, un cortège de foi, un cortège d'espérance. On veut proclamer que ce soit un lieu où tu vas agir. Et tu agis déjà, Seigneur. Tu agis déjà, Seigneur. Seigneur, c'est incroyable la puissance que tu as. Tu as mis une personne sur ma route qui est venue m'encourager. Je suis là aujourd'hui en train de te louer, en train de t'adorer. Merci pour cette femme que tu m'as donnée, Seigneur. Seigneur, tu ne peux pas savoir comme je me sens honoré de parler de toi. Je pourrais parler de toi pendant des heures, Seigneur. Et là, tu es là et tu es en train de faire le tour des chaises, Seigneur. Et tu prends dans tes bras d'amour chacune des personnes. Et tu lui dis, je suis là. Stop, arrête de pleurer. Ça ne veut pas dire qu'il nous condamne. Ça veut dire qu'il stoppe. Il y a un temps de deuil, il y a un temps de souffrance, mais maintenant, on va de l'avant ensemble. On va de l'avant ensemble parce que je te donne une solution à ton problème. Merci, Seigneur. Continue ton œuvre, Seigneur. Continue, Seigneur. Continue, Seigneur.